Alors d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.
Radio Kapi, le journal Jacques-Yves Moliba.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Tout d'abord, les titres. La décision du chef de l'État, Joseph Kabila, de ne pas briguer un troisième mandat, saluée par 10 organisations de la société civile de Lubumbashi, mais elle appelle le chef à la mise en œuvre des mesures de décrispation politique en libérant certains prisonniers emblématiques. 12 civils tués hier à Kanyana, dans le territoire de Massissi, au nord-ouest de Goma. Ils seraient victimes des affrontements entre les NDC rénovés de Guidon et les Nyatura. Des jeunes et des policiers sensibilisés sur la promotion et la protection des droits humains et les libertés publiques en période électorale, cela se passe à Kisangani dans la province de la Tchopo. Dorcas Kankou nous en parle dans le dossier de cette édition de la mi-journée. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. 10 organisations de la société civile saluent la décision du chef de l'État, Joseph Kabila, de respecter la Constitution en faisant annoncer qu'il ne va pas se représenter à la présidentielle du 23 décembre prochain. Dans un communiqué de presse conjoint publié hier mercredi à Lubumbashi, ces ONG indiquent qu'après avoir pris une telle décision salutaire, il est impérieux pour le chef de l'État de procéder urgemment à la mise en œuvre des mesures de décrispation politique, notamment en libérant certains prisonniers politiques emblématiques et d'opinion. On écoute Hubert Chiswaka, directeur général de l'Institut de recherche en droits humains, l'un des signataires au micro de Colin Djuma Moussopo. Nous disions tantôt qu'on devrait suivre Hubert Chiswaka, directeur de l'Institut de recherche en droits humains, l'un des signateurs du communiqué de 10 organisations de la société civile qui saluent la décision du chef de l'État. On l'écoute.
Toutes les ONG, nous étions au même endroit. Nous avons salué le fait qu'il puisse d'abord respecter cette étape de la Constitution qui lui demande de ne pas présenter sa candidature à la présidentielle. Et l'autre étape que nous attendons, l'étape cruciale, c'est qu'il puisse procéder maintenant à la libération des prisonniers politiques et d'opinion, notamment de Diomi Dongala, et Frank Diongo et le bâtonnier Muyambo Kiasa et les autres prisonniers d'opinion qui sont les jeunes des mouvements citoyens comme Benny Carbone. Nous demandons à ce qu'ils puissent libérer ces gens, d'autant plus que nous sommes dans le processus de l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors là, on va décrisper toute la situation politique du pays et nous irons aux élections apaisées en décembre 2018.
Coup de chapeau au président Joseph Kabila pour avoir tenu sa promesse de respecter la Constitution en ne briguant pas un troisième mandat à la tête du pays. Réaction de la députée nationale et secrétaire permanente adjointe du PPRD, Béatrice Lomeya, l'élu de Wamba, s'est réjouie aussi du choix de Shadary Ramazani. Elle a été jointe par Jeff Ngoy.
Le chef de l'État a concrétisé effectivement ce qu'il disait. Il a cessé de répéter qu'il va respecter la Constitution. Ce n'est qu'à aujourd'hui. Mais aussi la désignation de mon chef, les camarades secrétaires permanents, Emmanuel Shadary, comme son dauphin, nous a vraiment égayés parce que nous savons que là, ça va être vraiment la continuité dans le sens du développement. Nous connaissons l'homme. On a eu à travailler avec lui ce temps que nous sommes au secrétariat permanent. Et donc, c'est une satisfaction totale. Et nous disons donc coup de chapeau au chef de l'État qui a tenu à sa parole, mais aussi bon va au camarade Shadary, qui va absolument être un homme d'État comme il a toujours été, et il va faire un travail qui va être à la faveur du peuple congolais.
Qu'est-ce qu'il faut attendre de lui?
Il faut attendre de lui un travail de qualité. Vous savez que le camarade Emmanuel Shadary, c'est un homme fédérateur qui va devoir mettre tous les acteurs politiques de notre camp ensemble, mais après il va continuer avec le travail de développement à amorcer le chef de l'État.
Côté opposition, on s'est réjoui aussi du choix de Joseph Kabila de respecter la Constitution en ne briguant pas un troisième mandat. C'est l'avis du sénateur Jacques Joly du MLC. Ce dernier estime néanmoins qu'après être aux affaires pendant 17 ans, le pouvoir actuel n'a plus rien à proposer au peuple congolais. On l'écoute au micro d'Askin Zigbiateur.
Nous constatons que finalement, malgré les appels à la délinquance constitutionnelle, malgré les tentatives de toutes sortes, finalement, la loi fondamentale s'est imposée et l'accord du 31 décembre s'est imposé et la majorité a, n'est-ce pas, désigné à respecter la Constitution et il n'y aura pas de troisième mandat. Ça, c'est un élément fondamental. Pour le reste, le MLC vous a déjà présenté son candidat, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous travaillons là-dessus et nous sommes sûrs qu'avec toutes les autres forces de l'opposition, nous allons avoir la victoire finale pour avoir une autre alternative. Parce que dans l'autre camp, je ne vois pas quels sont les éléments nouveaux que le PPRD va amener.
Le comité laïque de coordination était à la pointe des contestations contre un éventuel troisième mandat du président Joseph Kabila. Maintenant que ce dernier a choisi son dauphin, Radio Capi lui a tendu aussi le micro pour recueillir sa réaction. Tout en se réjouissant de ce qu'il qualifie de première victoire, le porte-parole du CLC invite néanmoins la population à rester mobilisée, vigilante, prête à suivre les nouvelles orientations stratégiques qui seront données pour, précise-t-il, libérer tous les processus électoraux congolais. Jonas Tchombela est joint par Jeff Ngoy.
Nous sommes en face d'un processus électoral qui est loin d'être crédible. Beaucoup de choses restent à faire. La répression se poursuit avec la violence la plus extrême. Les machines à voter sans consensus demeurent encore. Le fichier électoral presque corrompu reste un problème pour nous. Les mesures de décrispation demeurent sans suite. Ce que nous pouvons dire à la population congolaise, la bataille est gagnée pour cette première partie parce que le respect de la Constitution maintenant doit s'imposer dans notre société. L'accord de la Saint-Sylvestre doit s'imposer comme un accord politique qui ne doit pas être violé à volonté par les gens qui le veulent. Mais le combat de la démocratie demeure. Nous devons avoir des élections crédibles au lendemain meilleur, pas des élections au lendemain chaotiques. D'ailleurs, dans les heures qui suivent, le comité laïque de la coordination fera une importante communication pour donner une nouvelle orientation stratégique sur la suite qu'il faut réserver à ce combat de la démocratie dans notre société.
Et comme vous le savez, Adolphe Muzito a déposé aussi sa candidature à la présidentielle hier. Selon lui, le processus est irréversible, mais il y a des questions qui restent pendantes, telles que la machine à voter et le fichier électoral. On écoute Adolphe Muzito.
Le processus est irréversible et que donc le 23 décembre, nous devons aller aux élections. Mais, et j'ai pris le temps de discuter avec le président de la CENI, comme toujours, il y a le problème de la machine à voter et il y a le problème du fichier électoral. Il est bon pour qu'on aille aux élections de manière apaisée, qu'on puisse trouver un consensus sur ces deux points, qui n'offre pas beaucoup de garanties, mais qui ne permet pas non plus au grand nombre d'aller voter de manière la plus transparente et crédible possible. Il en est de même de la problématique du fichier électoral. Donc il faut un consensus de la classe politique et sociale là-dessus, pour qu'on aille aux élections de manière apaisée. Non, le plus rapidement possible, on peut résoudre ces problèmes-là, il suffit qu'on organise une petite consultation pour que là-dessus on se mette très rapidement d'accord.
Et puis, vous le savez, les bureaux de réception et de traitement des candidatures aux élections présidentielles et législatives nationales ont fermé officiellement leurs portes hier mercredi, oui, ou comme prévu par la CENI. À Kinshasa, plusieurs candidats à la magistrature suprême du pays ont déposé leur dossier au BRT s'installer au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Paul Matendo, qui sont-ils?
Dans l'ensemble, ils sont 19 candidats à avoir déposé effectivement leur dossier de candidature à l'élection présidentielle. Pour les candidats des partis ou regroupements politiques, il y a Yves Mponga, président du parti Lutte pour le Congo Meilleur, Freddy Matungulu du parti Congo Nabisso, Emmanuel Chadari du Front Commun pour le Congo, Adolphe Muzito du mouvement Nouvel Élan du Congo, Antoine Kizenga du PALU, Jean-Pierre Bemba du mouvement des libérations du Congo, Vital Kamere de l'Union pour la Nation Congolaise, Félix Antoine Antoine Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Pasteur Rajaboum du Parti Congo Uni pour le changement, dont le dossier a été déposé par son mandataire, lui-même étant absent de Kinshasa, Martin Fayoulou de l'engagement pour la citoyenneté et le développement. À cela s'ajoute le Premier ministre honoraire Sami Badibanga et le professeur Michel Okungo. Parmi les candidats qui se présentent comme indépendants, citons le professeur Trifon Kikyo Amulumba, Alain Daniel Chekomba, Pasteur Théodore Ngoï et Seth Kikuni Masoudi qui fut le tout premier candidat à avoir déposé son dossier de candidature. L'unique femme qui se lance dans la course à la magistrature suprême pour le compte d'un parti politique s'appelle Marie-Josée Ifoku. Signalons que la liste pourrait s'allonger puisque quelques jetons ont été retirés par des candidats potentiels. Ces derniers ont 48 heures pour déposer leur dossier de candidature conformément à la loi.
À l'Équateur, c'est en catastrophe que le BRTC de la CENI Mbandaka a clôturé hier mercredi l'opération des dépôts de candidatures à la députation nationale. 62 candidats ont fait acte de candidature à la CENI et 16 jetons ont été remis aux candidats retardataires. Au nombre de ces postulants députés, Henri Tomalokondo, qui se représente sous une autre couleur politique, et du journaliste Henri Lobondobokelou. L'éclairage avec Dominique Olombi Mungapange.
À 16h30, local de Mbandaka, c'est le moment où la CENI BRTC de Mbandaka clôturait l'opération de dépôt des dossiers de candidature à la députation nationale. Au total, 70 dossiers de candidats députés ont été déposés pour 12 sièges à pourvoir à l'Équateur, dont 19 des partis politiques et 43 des regroupements politiques. À Mbandaka, 16 candidats pour 2 sièges. Sur les 87 candidats qui briguent la députation nationale à l'Équateur, 6 femmes candidates. Les députés sortants de Mbandaka, Henri Thomas Lokondo de l'UCL, s'aligne sur la liste du Palu et Allié, tandis que son collègue Issof Fallé est resté fidèle à son parti, le MLC. À la clôture de l'opération, les BRTC de la CENI Mbandaka a distribué 12 jetons aux candidats et mandataires retardataires. Augustine Lianja du Front Unis des Patriotes et Lungu Ngonga de l'Alliance pour l'Alternance explique à quoi est dû ce retard.
Nous avons seulement réussi le récépissé. Nous attendons l'original, la note de perception et le bordereau de la banque de versement. Ça va venir et nous allons mettre ça pour déposer la candidature.
Nous avons déjà des preuves de paiement, mais les originaux ne sont pas encore parvenus. C'est comme ça que nous demandons un jeton de dépôt après, dans 48 heures, pour que nous puissions nous conformer par rapport à la CENI.
Mbandaka, Dominique Wolombi Mungapange, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, au Nord Kivu, au moins 12 civils ont été tués hier à Kanyana, dans la localité Kalungu. Nous sommes en groupement Bachalimokoto, territoire de Masisi, à plus de 100 km au nord-est de Goma. C'est lors des affrontements entre les NDC rénovés de Guidon et les Nyatura. Selon la police locale, certaines victimes ont été enterrées hier même, alors que d'autres le seront aujourd'hui. La société civile locale, quant à elle, en appelle au gouvernement pour mettre définitivement fin aux violences armées dans cette entité. Gisèle Cage.
Les affrontements d'hier à Kinyana, dans la localité Kalungu, ont duré près de 10 heures, de 5 heures du matin à 14 heures de l'après-midi. C'est le NDC rénové des Guidons, coalisé au groupe Boza d'un certain Apollo, qui s'affrontait avec une coalition constituée des Nyatura de Jean-Marie et Kavumbi et la paix céleste rénovée des Mapenzi. L'attaque s'est renoncée par le NDC rénové et allié à au moins 2 kilomètres d'une position militaire à l'ouest des Kaira, dans le but de déloger l'ennemi. Mais les militaires ne seraient pas intervenus, indiquent d'autres sources. On dénombre au moins 12 civils tués dans ces affrontements et des déplacements de population selon la police locale. Ce que déplore la société civile de Bachalimokoto, son président Laurent Kamundu.
Vraiment, cette situation nous rend mal à l'aise. En voyant les combats entre les groupes armés et voyant la population en déplacement du jour au lendemain, déjà maire, nous constatons que nous sommes délaissés par notre gouvernement. Nous demandons au gouvernement de penser à cette population, parce que c'est une population congolaise aussi, et là, déjà, d'une protection, il ne faut pas le laisser à la merci des groupes armés.
Pour l'instant, le calme serait revenu dans la région. Les Nyatura et la PCLS seraient toujours à Kinyana. Quant à l'armée, elle dit qu'il est difficile de déployer des troupes dans toute cette région, faute d'effectifs. Goma, Gisèle Cage, Radio Capi.
Un tué, un blessé, puis une fille violée, c'est le bilan d'une attaque cette nuit par des hommes armés sur deux villages, Kalingera et Kishadu, un groupement de Nyangezi dans les territoires de Walungu. Selon des sources locales concordantes, les assaillants ont investi le village vers 2h du matin. Les hommes armés estimés à 6 se sont livrés à plusieurs exactions, dont le viol dans le village ciblé, avant de se voir pourchassés par les habitants jusqu'à ce jeudi matin. Michel Tirimwami nous en fait le point.
Les habitants des deux villages Kishadu et Kalengera à Nyangezi, situés à 5 km de l'état-major du régiment des FARDC déployé sur place à Nyangezi, ont passé une nuit agitée après cette attaque d'hommes armés non autrement identifiés. Selon la société civile de Nyangezi, l'incursion des malfrats a eu lieu entre 10h et 4h du matin. La population s'est réveillée en sursaut pour poursuivre les assaillants aidés par la police et les militaires. Les bandits ont procédé par des tirs contre les habitants, dont un a été atteint par une balle tirée à bout portant contre eux. Ce dernier blessé grièvement a été acheminé à un hôpital de la place. Un d'entre les assaillants a aussi été repéré par les manifestants là où il s'est caché dans un des marécages de la place. La population a mis la main sur lui et venait de le lyncher vers 7h du matin dans une scène de justice populaire. La société civile demande aux forces de sécurité de doubler d'efforts pour neutraliser cette bande armée qui opère régulièrement à Nyangezi sans qu'on mette la main sur une seule arme parmi celles qui circulent dans la région. Bukavu, Michel Chumami, Radio Okapi.
Et puis lancement hier mercredi dans la commune rurale de Mangina, dans le territoire de Beni, environ 30 km au sud-est de la ville de Beni, de la vaccination ciblée pour la riposte contre la maladie à virus Ebola déclarée dans la région. Cette campagne a été lancée par le ministre de la Santé publique, Martial Papimukeba, pour les détails.
Les deux premières personnes à se faire vacciner en fait de rassurer la population ont été les ministres provinciaux de la Santé au Nord Kivu et le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination. Ensuite, ce sont les professionnels de la santé des premières lignes du centre de santé de référence de Mangina qui avaient été à contact avec les cas confirmés qui ont été à leur tour vaccinés. Le débit de cette vaccination ciblée intervient une semaine après la déclaration par le ministère de la Santé de la présence de l'épidémie à virus Ebola dans l'aire de santé de Mangina, de la zone de santé de Mabalako. Dans un communiqué, le ministère de la Santé publique annonce que 3220 doses du vaccin sont actuellement disponibles dans les pays. D'après la même source, le travail avec les communautés a déjà commencé en fait de préparer la vaccination à ceinture des populations affectées dans l'aire de santé de Mangina, distante de 30 km de la ville de Beni. Signalons que dans un nouveau bilan publié ce mercredi par le ministère de la Santé, au total 44 cas de fièvre hémorragique à virus Ebola ont été signalés dans la région, dont 17 confirmés et 27 probables. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
En international, les autorités zambiennes ont expulsé ce jeudi vers le Zimbabwe l'opposant zimbabwéen Tendai Biti, passant outre une décision de justice interdisant son expulsion, a affirmé à l'AFP l'avocat de l'opposant. Figure de l'opposition et ancien ministre des Finances, Tendai Biti avait passé hier mercredi la frontière zambienne pour y demander l'asile politique. Son mouvement pour le changement démocratique MDC a assuré à Harare son intention de contester en justice les résultats de la présidentielle du 31 juillet, remportée par le président sortant Emerson Mnangagwa devant le leader du MDC, Nelson Kamisa. Au Mali, le président malien sortant Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, seront bien opposés au second tour de l'élection présidentielle le 12 août prochain, a confirmé mercredi la Cour constitutionnelle malienne en rejetant les recours introduits par l'opposition. Keïta termine largement en tête du premier tour qui s'est tenu le 29 juillet dernier avec 41,70% des suffrages, a annoncé la présidente de la Cour constitutionnelle Manassa Danaïko en proclamant lors d'une audience retransmise en direct à la télévision les résultats définitifs. Enfin, le bilan du violent séisme qui a frappé dimanche dernier l'île de Lombok dans le sud de l'Indonésie a quasi doublé et ça monte à 319 morts, a indiqué ce jeudi le ministre de la Sécurité au cours d'une conférence de presse. Le précédent bilan provisoire était à 164 morts.